Radio Vatican, France et Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée mercredi 8 septembre, notamment par l'audience générale du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira en Somalie, au Maroc et en République démocratique du Congo, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Mercredi 8 septembre, en la salle Paul VI au Vatican, le pape a continué son cycle de catéchèses sur la lettre de saint Paul aux Galates. Il est notamment revenu sur l'identité reçue lors du baptême, une identité nouvelle supérieure aux différences ethniques, religieuses ou sociales. Marine Henriot.
L'apostolo afferma con grande audacia che quella ricevuta con il battesimo è una identità totalmente nuova.
Ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Cette déclaration de Paul dans sa lettre aux Galates est révolutionnaire, estime François. D'abord, écrire qu'il n'y a ni juif ni grec était alors subversif, a-t-il rappelé. Le peuple élu était privilégié par rapport aux païens. Il n'est pas surprenant que cet enseignement de l'apôtre puisse paraître hérétique, a déclaré François. Ensuite, il n'y a ni esclave, ni homme libre, ouvre également des perspectives bouleversantes, a expliqué le souverain pontife.
Così, infine, l'uguaglianza in Cristo supera la differenza sociale tra i due sessi, stabilendo una uguaglianza tra uomo e donna.
Enfin, allora, ni homme ni femme, l'égalité dans le Christ surmonte la différence sociale entre les deux sexes, établissant une égalité entre l'homme et la femme qui était révolutionnaire à l'époque et qui doit encore être réaffirmée aujourd'hui. Selon Paul, a ajouté le Saint-Père, l'unité profonde existe entre tous les baptisés, quelles que soient leurs conditions, parce que chacun d'eux, dans le Christ, est une créature nouvelle. La vocation des chrétiens est donc de rendre concret et évident l'appel à l'unité de tout le genre humain, a conclu François. C'est la foi qui agit en suivant le chemin de l'unité indiqué par l'Esprit Saint.
Siamo dunque chiamati in modo più positivo a vivere una nuova vita che trova nella figliolanza con Dio la sua espressione fondante. Uguali perché figli di Dio e figli di Dio perché ci ha redento Gesù Cristo. E siamo entrati in questa dignità tramite il battesimo.
Après le coup d'État en Guinée, Monseigneur Raphaël Balagilavogui, évêque de Nzérékoré et président de la Conférence épiscopale de Guinée, invite la population à accueillir la situation avec beaucoup de réserve et de retenue.
Nous vivons cela avec beaucoup de réserve, je dirais, dans la mesure où ça nous a tous surpris, hein. Mais il faut reconnaître qu'il y avait un malaise, hein, au niveau social, politique. Et il y avait une certaine tension, surtout au niveau politique, depuis les dernières élections présidentielles. Au niveau social, il y a le fait qu'il y avait beaucoup de difficultés.
Comme vous le dites, il y avait des malaises. Nous avons tous suivi la population qui a, n'est-ce pas, accueilli le militaire avec liesse. Et le militaire, ils ont tenté de rassurer non seulement la population, mais aussi le partenaire de leur volonté de remettre de l'ordre dans le pays. Croyez-vous en leur bonne volonté?
Écoutez, je pense que nous ne pouvons que les prendre sur les paroles. Personnellement, je n'ai aucune idée de la personne du lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya. Bon, auparavant, je ne l'ai pas connu, comme d'ailleurs les médias l'ont dit. La plupart des Guinéens ne le connaissaient pas. Mais cela dit, nous pensons qu'on peut les croire sur parole. Voilà. Parce que la manière dont les choses se sont passées, nous pouvons dire que ça n'a pas été trop brutal et ça n'a pas été trop violent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de victimes, mais peut-être de loin, nous pouvons dire que c'est plus ou moins de manière apaisée. Mais ça ne veut pas dire nullement que nous cautionnons un coup d'État, parce qu'un coup d'État a toujours un côté beaucoup plus négatif, quoi.
Particulièrement comme pasteur, comme évêque, avez-vous un message à votre population?
ce que je dirais, c'est que nous devons accueillir cela avec toute la réserve qu'il faut et puis faire en sorte que vraiment ça ne déborde pas. Parce que c'est généralement à ces occasions-là qu'il y a parfois des règlements de comptes, parfois des pillages, des affrontements même, parfois ethniques. Ce que je peux dire au niveau de la population et des fidèles, c'est de pouvoir garder vraiment leur calme et de vivre cela de façon prudente. Voilà.
Monseigneur Raphaël Bala Guilavogui, évêque de Nzérékoré et président de la Conférence épiscopale de Guinée. Propos recueillis par Donatien Niembo. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire a rendu jeudi 2 septembre une visite au père Norbert Eric Abécan. L'objectif était de féliciter le nouveau secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale Justice et Paix et Environnement pour sa nomination, mais également travailler au renforcement des liens de fraternité et d'amitié entre les deux communautés sœurs pour une meilleure cohésion sociale dans le pays.
Le cheikh Aïma Ousmane Diakité était accompagné d'une forte délégation composée de hauts responsables de son bureau national. Cette présence chez le curé de la paroisse Sainte-Famille de Cocody Rivera II dans l'archidiocèse d'Abidjan, pour lui, est une chose naturelle entre croyants. Près d'une heure dans l'auge, c'est le temps qu'a duré cette visite de courtoisie. Durant leurs échanges, ces deux personnalités ont fait le tour de plusieurs sujets importants. Ils ont surtout réaffirmé leur volonté d'œuvrer ensemble au renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans le pays, et ce, autour de leur instrument de communion, l'Alliance des guides religieux, qu'ils devront redynamiser pour atteindre sa mission.
Nous sommes aussi venus, au cours de cette visite, au cours de nos échanges, féliciter le père Abécan pour son engagement à travailler pour le rapprochement, pour l'entente entre les différentes communautés. Nous l'avons aussi invité à soutenir le projet de l'Alliance des religieux parce que, de notre point de vue, la Côte d'Ivoire a besoin de voir ses leaders religieux ensemble. Cela est une sécurité pour nos fidèles et aussi pour l'ensemble de nos concitoyens.
Visiblement heureux, le père Norbert Eric Abécan n'a pas caché sa joie face à cette visite de hauts responsables du Conseil supérieur des imams.
Les guides religieux se mettent ensemble pour dire un message d'amour, de paix à la nation. Je crois que ce message va parler encore plus fort. Ces rencontres mutuelles feront que les liens seront encore plus renforcés.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans le diocèse de Thiès au Sénégal, la paroisse Saint-Augustin de Babac du doyenné Diobas a célébré sa fête patronale dimanche 5 septembre. Les détails dans cette correspondance.
La messe présidée par l'abbé Jean-Paul Pouille a été concélébrée par l'ordinaire du lieu Monseigneur André Gueye et une dizaine de prêtres, dont le nouvel administrateur de la paroisse, l'abbé Stanislas Pierre Faye. Dans son homélie, l'abbé Pouille a demandé:
où en sommes-nous dans notre vie de foi? Et où en est la foi dans notre vie ici à Babac et environ? La foi est vie et cheminement. Cheminement avec Dieu, près de lui et en Dieu lui-même. Notre vie s'enracine en lui et une vie qui se coupe de sa racine s'effrite et se dessèche. Vivant loin de toi, Seigneur, on meurt, nous dit Saint-Augustin, mais mourant près de toi, on vit.
L'abbé Pouille a également saisi l'occasion de la fête de Saint-Augustin pour le présenter aux fidèles paroissiens comme modèle de chercheur d'infini, chercheur de Dieu.
L'homme est habité par un désir d'infini. Saint-Augustin l'avait compris, même si c'est à la fin. Il a su que c'est parce que Dieu nous a fait pour lui et que tant que notre cœur ne demeure pas en lui, il ne trouvera jamais le repos. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il demeure loin de toi. Si nous cherchons Dieu, nous trouvons nécessairement une réponse à notre besoin d'infini.
Clément Awandjinou Daka pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Des rebelles tigréens ont tué au moins 125 civils début septembre dans un village de l'Amhara, région du nord de l'Éthiopie, gagné ces derniers mois par le conflit qui fait rage au Tigré voisin, ont indiqué mercredi des médecins. Il y a eu 125 morts dans le village de Tchemna, J'ai vu le charnier moi-même, a déclaré Mulugeta Meleza, chef de l'hôpital de la ville voisine de Dabat, en ajoutant que les habitants cherchaient toujours des cadavres dans les environs et que le décompte est toujours en cours. Les Marocains votent mercredi lors d'élections générales. Les quelques 18 millions d'électeurs élisent pour la première fois les 395 députés de la Chambre des représentants et plus de 31 000 élus communaux et régionaux. Tous aux urnes, a appelé le quotidien L'Économiste, pour qui le taux de participation est le véritable enjeu des scrutins d'aujourd'hui. La participation avait plafonné à 43% lors des législatives de 2016. Selon le ministère de l'Intérieur, les opérations de vote se déroulent dans les circonstances normales. Le chef du gouvernement sera issu du parti arrivé en tête du scrutin législatif. Il est nommé par le roi Mohamed VI et chargé de former son exécutif pour un mandat de 5 ans. Le premier ministre de Somalie, Mohamed Roble, a estimé mercredi que le président de ce pays entrave l'enquête sur la disparition d'une agente des services de renseignement au cœur d'une vive polémique dans le pays. L'affaire Ikran Tahlil, du nom d'une jeune employée du service de cybersécurité de l'Agence nationale de renseignement et de sécurité, enlevée à Mogadiscio le 26 juin, est depuis ce week-end à l'origine d'une nouvelle escalade entre les deux dirigeants dont la rivalité est au centre de la politique somalienne ces derniers mois. Après des semaines de silence autour du sort de son agente, l'agence a affirmé vendredi que selon ses investigations, ses ravisseurs l'avaient remise aux djihadistes Shebab qui l'ont exécutée. Ces derniers ont démenti toute implication. La famille d'Ikran Tahlil accuse l'agence de l'avoir éliminée, accusation largement reprise sur les réseaux sociaux alors que la raison de son enlèvement est source de spéculation. L'affaire est devenue politique samedi lorsque Mohamed Roble a jugé le rapport de l'agence pas convaincant et manquant de preuves et sommé le directeur de l'agence Fahad Yassine, un intime du président Mohamed Abdoulaye Mohamed, de fournir un rapport complet dans les 48 heures. Après avoir déclaré vouloir s'expliquer devant le comité de sécurité nationale où siège notamment le chef de l'État, Fahad Yassine a été limogé dimanche par le Premier ministre, une décision déclarée inconstitutionnelle et illégale par le président.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
La République démocratique du Congo indique que deux de ses militaires ont été tués dans une altercation avec des soldats burundais sur le lac Tanganyika. L'incident est survenu par manque de communication, mais aussi à cause de l'obscurité sur le lac. La marine congolaise était en patrouille de reconnaissance quand elle a été confondue avec des bandits par la marine burundaise, a-t-il été expliqué. Selon un responsable de la société civile de la localité de Mboko, située sur la rive congolaise du lac, des échanges de tirs ont opposé les deux forces après que les militaires congolais s'en sont pris à des pêcheurs burundais à qui ils avaient ravi 5 litres de carburant. Par ailleurs, une épidémie de méningite a été déclarée dans le nord-est de la République démocratique du Congo où 129 décès ont été enregistrés, a indiqué mercredi le bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique. Selon l'OMS, des tests de confirmation menés par l'Institut Pasteur de Paris ont détecté Neisseria meningitidis, une des bactéries causant la méningite la plus fréquente et qui peut potentiellement provoquer de vastes épidémies.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Dans le cadre de notre magazine sur les organisations internationales et la solidarité, nous donnons la parole à M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français et membre de l'association Leader pour la paix. Il commence par nous expliquer c'est quoi Leader pour la paix. On l'écoute.
Leader pour la paix, en fait, c'est une coopérative de leaders. Nous sommes 9 anciens premiers ministres, 8 anciens ministres d'affaires étrangères, des diplomates, des professeurs, des entrepreneurs, le président de la Fédération de judo du monde, c'est-à-dire un certain nombre de gens qui ont de l'expérience des responsabilités, mais qui sont aujourd'hui libres et qui donc peuvent avoir une certaine flexibilité, notamment dans les conflits, pour trouver les marges de manœuvre de négociation. Nous sommes une coopérative, un par pays, et donc nous pouvons, les uns et les autres, ainsi construire une réflexion collective. Et puis on a un certain nombre de nos leaders qui... avant, avait des responsabilités, mais on a aussi des leaders qui ont pris des responsabilités. Parce que M. Blinken, par exemple, était le représentant des États-Unis. Il est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères. Nous avons M. Enrico Letta, qui a pris des responsabilités ici en Italie. Nous avons la directrice nouvelle de l'OMC, qui est avec nous aussi. Donc, un certain nombre de leaders sont aujourd'hui dans des organisations internationales puissantes. Voilà notre idée. Nous faisons d'abord un rôle de think tank, en publiant un rapport annuel. Et puis, nous travaillons sur le terrain, notamment en essayant d'inventer une pédagogie de la paix. La paix, c'est quelque chose de complexe, c'est un travail, ça ne tombe pas du ciel, même au Vatican, on peut dire ça. Et au fond, ça demande des efforts. Il y a partout des écoles de guerre, il n'y a pas beaucoup d'écoles de paix. Et nous, nous voulons créer une école itinérante de la paix, qui va aller transmettre, notamment aux jeunes dans les pays en conflit, ce qu'est la paix, comment on la prépare, comment on négocie, comment on fait des médiations. Et tout ceci peut être enrichi par le travail que nous pouvons développer avec les équipes du Vatican, notamment pour définir certains sujets d'étude qui sont essentiels à la paix. Je pense à la dignité humaine, je pense à la fraternité. Alors bien sûr, nous travaillons sur l'histoire des guerres, sur les techniques de la diplomatie, mais il faut quelquefois aller plus profondément. Quand on porte atteinte à la dignité de quelqu'un, on crée souvent de la violence. Et la violence, c'est pas loin de la guerre.
Alors, cette pédagogie de la paix dont vous parlez, c'est l'un des leitmotifs du pape François. Depuis le début de son pontificat, il ne cesse de même de prendre des risques en allant physiquement dans des pays dangereux, comme la Centrafrique par exemple. Comment le pape est-il perçu par vos confrères, des leaders pour la paix, qui ne sont pas tous de culture catholique? Qu'est-ce que le pape représente dans cette géopolitique mondiale instable?
Alors d'abord, c'est une reconnaissance de sa stature personnelle. C'est-à-dire que les musulmans, les gens qui sont athées, tout le monde voulait venir. Tout le monde voulait venir dans cette délégation. On a été obligé de la réduire. Et donc, il est clair qu'il y a un certain nombre de gens qui avaient exprimé à cette occasion une forme de respect, de considération. Et pour ceux qui étaient présents, une forme d'émotion. Donc, il y a déjà ce prestige, ce charisme, dirons-nous, cette grâce que porte le pape. Et puis, il y a aussi, naturellement, les efforts qu'il a pu faire. Il y a, naturellement, les encycliques. Il y a cette pensée de la fraternité, cette pensée de la dignité. Et au fond, cette volonté de communiquer la paix. Et donc ça, c'est assez structuré aujourd'hui au Vatican. Nous avons travaillé avec la communauté Saint-Égidio. Nous avons travaillé avec l'Université du Latran, où, visiblement, on voit que le pape veut nourrir la culture de la paix. Et ça, c'est très important, parce que, au fond, la politique, quelquefois, ne remplit pas ce vide de la pensée. Et cette pensée de la fraternité, de la paix, c'est une culture, c'est aussi quelque chose qui est plus grand que nous et qui doit se travailler. Et finalement, l'un des lieux où l'on travaille cette réflexion, c'est quand même le Vatican. Et donc, je suis assez étonné de voir que mes amis musulmans, juifs, athées, tous ceux qui aujourd'hui s'intéressent aux questions de paix, écoutent le pape, et le pape a une influence aujourd'hui stratégique très importante.
L'aspect de la pandémie de coronavirus a été largement abordé par le pape dans son intervention. Cette pandémie a eu des conséquences dévastatrices sur le plan sanitaire, mais aussi psychologique, politique. Beaucoup de gens ont peur, y compris parmi les dirigeants des États. Est-ce que la dimension spirituelle et la voix que porte le Saint-Siège dans le monde peut être un moteur dans la reconstruction des peuples et la reconstruction de la confiance des peuples aussi dans leurs dirigeants?
Alors, je crois qu'il n'y a que la pensée, le spirituel, qui peut répondre à la peur, qui peut rassurer. Et au fond, on voit que la peur, elle entraîne le repli. Et on voit aujourd'hui que ce virus, qui est en fait mondial, qui se moque des frontières, en fait, il a réveillé un certain nombre d'égoïsmes et chacun a voulu travailler pour soi. Dans la grande crise de 2008-2010, on avait vu des initiatives multilatérales qui avaient renforcé la coopération. Aujourd'hui, on a vu surtout la compétition être renforcée par le virus. Et donc, au fond, il y a une sorte de vide de la relation internationale qui ne s'exprime que par des coups de menton, par des tensions aujourd'hui, voire une guerre froide quand il s'agit des États-Unis et de la Chine. Et donc, on voit bien qu'il y a un déficit aujourd'hui de pensée. Et la politique sans pensée, c'est dangereux. Et c'est pour ça que, quelles que soient les sources, quand une source crée une pensée, une culture, il faut y être attentif. C'est ce que fait aujourd'hui le pape. Il donne au fond des arguments tout en donnant aussi une certaine forme d'altitude. C'est vrai que quand il parle des migrants et quand vous êtes gouvernant, c'est pas facile de trouver les mesures cohérente avec le discours. Mais ça, c'est le problème de toute pensée qui doit entrer en action. La pensée, elle est quelquefois éloignée d'un certain nombre de réalités, mais elle est nécessaire. Si on ne sait pas quel est notre chemin, vous savez, le pèlerin, je suis un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le pèlerin, il a besoin du chemin et de la destination. L'un va avec l'autre. Sans destination, le chemin est difficile, mais sans la marche quotidienne, la destination n'existe pas. Et c'est ça aujourd'hui le rôle de la pensée, c'est d'être un peu la destination de notre chemin.
Monsieur Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français, au micro d'Olivier Viette.
Parlons à présent éducation
avec Donatien Niembo.
Commençons notre rubrique sur l'éducation par la Côte d'Ivoire, où le mouvement ivoirien de droits de l'homme a dévoilé un rapport accablant sur l'impact de la privatisation et de la marchandisation de l'éducation dans les localités des Dalo, Abouaké, Abobo, Yopougon et Kokodi. C'était au cours d'une conférence dédiée ce mardi 7 septembre 2021 à Abidjan, Kokodi, au centre de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest francophone. Ce rapport intervient au moment où la Côte d'Ivoire poursuit les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il s'agit d'une initiative de Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights du réseau de recherche francophone sur la privatisation de l'éducation et du mouvement ivoirien des droits de l'homme. L'objectif majeur de cette recherche est l'évaluation de l'impact de la privatisation et la marchandisation de l'éducation sur les droits de l'éducation des populations démunies au regard des principes d'Abidjan. En présence de vice-chanceliers et des recteurs des institutions universitaires publiques, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques au Cameroun, a présidé mardi dans son cabinet la première session du comité technique chargé d'émettre des propositions sur la troisième phase du recrutement spécial des titulaires du doctorat ou du PhD, candidats aux divers postes d'enseignement dans les universités d'État du Cameroun. Ce recrutement spécial a pour finalité l'amélioration du ratio enseignant-enseigné dans les institutions universitaires, la maximisation de l'assurance qualité dans les systèmes universitaires camerounais, ainsi que l'optimisation de l'économie du savoir. Les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo se sont ouverts le lundi 6 septembre à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Ils sont prévus du 6 au 14 septembre. Les travaux se déroulent en deux temps. Du 6 au 9 septembre, les activités préliminaires des états généraux et du 10 au 14 septembre, l'on assistera aux assises proprement dites de ces états généraux. Ces assises visent à réfléchir sur les réformes du secteur afin de le relever, de le redresser, le requalifier et l'innover, selon le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Toujours en République démocratique du Congo, l'UNICEF a nommé l'artiste Lokwa Kanza en tant qu'ambassadeur national à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation. L'artiste aux multiples talents se servira de sa visibilité pour sensibiliser le public aux droits de l'enfant et aux problèmes des jeunes. Grâce à sa notoriété internationale, Lokwa 15 peut aider à braquer les projecteurs de l'actualité sur les défis auxquels les enfants congolais sont confrontés au quotidien, a déclaré Edouard Beybeder, représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Lancé officiellement le lundi 15 janvier 2018 à Bruxelles, le projet européen REAMOOC, Réseau africain de développement de MOOC pour l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur, améliorera l'apprentissage des étudiants dans l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne en favorisant l'adoption des pratiques pédagogiques numériques innovantes au sein des institutions partenaires du projet. Le projet est cofinancé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne. Il est coordonné par l'Université libre de Bruxelles et l'Agence universitaire de la francophonie et réunit 10 autres partenaires. Terminons avec la nation arc-en-ciel, où 4 universités se sont réunies pour développer l'enseignement des langues locales dans l'enseignement supérieur. Il s'agit des universités Rhodes du Nord-Ouest, du KwaZulu-Natal et du Western Cape. Le projet financé par l'Union européenne va également connaître la participation de l'Université de Salamanque de l'Espagne, l'Université Groningen de Pays-Bas et le Trinity College Dublin d'Irlande. Les établissements comptent mettre en œuvre un projet de formation sur la manière d'enseigner aux étudiants les langues africaines autochtones. Le projet connu sous le nom BACAND est un processus collaboratif de renforcement des capacités qui vise à fournir à tous les étudiants un accès à l'utilisation des langues africaines.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboilo qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jésus Christus. Amen.